On arrive à l'histoire bien connue que Moshe Rabbeinu, avec les Bnei Israël dans le désert, encore une fois, ils n'ont pas d'eau à boire. Top. Alors là, Hachem demande à Moshe et à Aaron de réunir les Bnei Israël en face des rochers. Et Hachem dit à Moshe de parler au rocher. Il dit Bartem et la Sela, de parler au rocher. Et Moshe, comme par hasard, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher deux fois, jusqu'à ce que les deux sont sortis. Et pour cette faute, puisque Moshe Rabbeinu a changé ce qu'Hachem lui avait dit de faire, Moshe et Aaron ont été punis de ne pas rentrer en Eretz Israël. Bon, histoire bien connue, mais cependant les commentaires sont moins connus, c'est-à-dire que les commentaires qui puissent répondre à toutes les questions sont moins connus. Alors bon, sachez tout d'abord qu'il y a là-dessus au moins 12 commentaires dans les commentateurs. L'Or HaIm lui-même, il amène 10 commentaires, mais il pose des questions sur chacun de ses commentaires et propose son pirouche à lui, son commentaire, le 11e commentaire. Maintenant, on va plutôt ramener le 12e commentaire qui est de Yonatan Ben Uziel. Top. Alors tout d'abord, quelques questions. Comment est-il possible, on peut concevoir tout d'abord que Moshe Rabbeinu a changé, a transformé ce que Hachem lui a dit de faire. Moshe Rabbeinu, qui était Eved Hachem, le serviteur d'Hachem, comment est-ce qu'il se permet de faire autre chose que Hachem lui a recommandé? Hachem lui dit de parler au rocher, et lui, au lieu de parler, il se met à frapper le rocher. Deuxièmement, quel est le rapport entre la punition et la faute? On sait toujours que dans la Torah, en fait, il n'y a pas de punition réellement. Le onesh, la punition, ça n'existe pas. La sentence, ce n'est pas une notion de la Torah, parce qu'en contraire, la Torah, c'est un tikkun. Elle vient arranger, réparer ce qu'on a fait de mauvais. Il faut toujours qu'il y ait un rapport qui s'appelle Mida Keneged Mida. C'est que la punition, elle vient comme pour réparer, pour laver, lessiver la faute qui a été commise. Alors, quel rapport ici entre le fait que Moshe, au lieu de frapper, au lieu de parler, il a frappé, et le fait que Moshe ne soit pas rentré en Israël? Top. On va tout d'abord lire le commentaire de Yonatan Ben Uziel. Top. Il nous dit la chose suivante. Hachem a dit à Moshe et à Aaron. Il leur a dit de réunir tout un Israël en face de ces rochers. Alors tout d'abord, une petite parenthèse intéressante, il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici à la fin des 40 années dans le désert. Enfin, je rappelle que le Bnei Israël sortit d'Égypte. Et le Bnei Israël devait a priori rentrer tout de suite en Israël. Mais comme ils ont fauté, par les miraglim, les explorateurs, ils ont refusé d'entrer en Israël, ils avaient peur des ennemis. Alors Hachem a décrété qu'ils allaient rester errer 40 ans dans le désert. Et tous ceux qui sont sortis d'Égypte, à part quelques exceptions, allaient mourir dans le désert. Et uniquement leurs descendants pourraient rentrer en Israël. Donc il s'agit d'une génération qui a vécu pendant 40 années durant avec Moshe Rabbeinu et Aaron, avec des miracles quotidiens. La manne qui tombe du ciel tous les jours. Moshe avec ses prophéties extraordinaires. Donc c'est un peuple qui a priori est à un niveau spirituel très élevé. C'est un peuple qui n'a pas connu l'esclavage. Ils sont tous nés dans le désert. Bon, à part évidemment ceux qui étaient enfants encore, ceux qui étaient moins de 20 ans, ne sont pas morts dans le désert. Mais ceux qui avaient plus de 20 ans sont tous morts dans le désert. Donc la plupart, c'est une nouvelle génération qui n'a pas connu l'esclavage, mais qui a connu, n'est-ce pas, qui a connu uniquement une période extraordinaire avec Moshe et Aaron dans le désert, pleine de Nissim. Ils sont appelés dans la Gemara Dor Dea. C'est une génération dans laquelle il y avait un surplus de da'at, de connaissances, de savoir, de prise de conscience spirituelle. Donc, enfin, on peut tout d'abord comprendre pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait un certain désespoir par rapport à ce peuple. Parce que Moshe est en train d'éduquer une nouvelle génération pendant 40 ans. Il est en train d'éduquer les enfants qui avaient moins de 20 ans, ainsi que ceux qui sont nés dans le désert. Pendant 40 ans, il est là en train de leur enseigner la Torah tous les jours. À la fin de ces 40 années, lorsqu'ils sont au point de rentrer en Israël, eh bien, ils commencent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'eau. Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et vraiment, ils s'expriment pas aussi de façon qui ne convient pas un peuple qui vivait à un niveau spirituel très élevé. Donc on peut comprendre que Moshe Rabbeinu avait lieu d'être désespéré, découragé, déprimé, par comme un échec de toute son entreprise pendant 40 années durant. Et donc là, on peut encore se poser la question, pourquoi donc Hachem a puni Moshe de façon si sévère de ne pas rentrer en Israël. Top. Alors, Yatan Uziel nous propose le pérou suivant. Il nous dit tout d'abord que Hachem a dit à Moshe la suite suivante. Bon, il fait des dukim dans les versets, on ne va pas s'attarder parce que bon, ça prend du temps. Il nous dit la chose suivante. Hachem a dit à Moshe, réunissez le peuple et vous allez lui parler, explique Yatan Uziel, vous allez jurer, vous allez prononcer le nom d'Hachem. Shem Amfourash. Bah, c'est un nom qui comporte 42 lettres, un nom d'Hachem très spécial. Vous allez prononcer ce nom d'Hachem devant le rocher. Jurez devant le rocher son nom d'Hachem. Et si le rocher donne ses eaux, parfait, très bien. Mais s'il ne donne pas de l'eau, là vous allez frapper le rocher. C'est ce qu'Hachem a dit à Moshe. Et Moshe a réuni le peuple. Et tout de suite, il a frappé. A frappé le rocher. Ça, c'est ce que dit un tel Moïse. Bon, là aussi, ça nécessite d'être commenté. Parce que là aussi, on pose la question, si Hachem a dit à Moshe d'abord de jurer, ensuite de frapper, ça ne marche pas, pourquoi est-ce que Moshe a changé? Et tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem dit à Moshe, tu fais ci ou cela? D'abord, Hachem peut faire tous les miracles qu'il peut vouloir. Alors pourquoi est-ce que dit Hachem à Moshe que tu vas jurer, si ça ne marche pas, tu vas frapper? Comment est-ce qu'on peut imaginer que Hachem dit à Moshe, fais telle chose et ça ne va pas marcher? Si le rocher, en quelque sorte, va refuser de donner ses eaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'explication est la suivante. D'abord, en guise d'introduction, il faut bien comprendre que le monde entier, le monde matériel, se conduit et dirigé selon le niveau spirituel des êtres humains en général. On va expliquer. Bon, on va d'abord pas. On va faire une parenthèse, on va ramener une histoire bien connue de Mordechai Esther, parce qu'on est bien que ça n'a pas de rapport direct, mais ça va bien illustrer cette notion-là. La Gemara raconte dans Megillah que lorsque Haman a voulu exterminer tout l'âme Israël et a décrété de les mettre à mort tous en un seul jour. Et puis les décrets ont été publiés dans tous les pays. La Gemara raconte que Élie Hanavi a rencontré Mordechai, ou plutôt le contraire, c'est Mordechai qui a rencontré Élie Hanavi. Et Mordechai demande à Élie Hanavi, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe au ciel? Au ciel, est-ce qu'il y a réellement un décret divin d'exterminer, d'anéantir un Israël, ou alors il n'y a rien au ciel? Si au ciel, il n'y a pas de décret divin, alors Achashverosh, il ne m'intéresse pas, Haman, il ne fait pas peur. Parce que s'il n'y a aucun décret divin, alors la veille du décret, eh bien lui, il aura une crise cardiaque, l'autre il va tomber malade ou un autre empêchement, et il n'y aura aucune mise à mort. C'est-à-dire que Mordechai a bien compris que c'est ni Achashverosh, ni Haman qui vont décider ce qui va se passer, mais c'est plutôt au ciel qu'on est en train de décider ce qui va se passer. Et la Gemara explique que pourquoi, en effet, il y a eu un tel décret contre les bénis Israël, parce que 9 années auparavant, les bénis Israël avaient commis plusieurs fautes. Bon, c'est vrai, plusieurs interprétations, plusieurs perushim. Bon, une faute qui s'était prosternée à des idoles, une autre faute qu'ils ont participé au festin qu'avait organisé Achashverosh. Top. Une autre faute parce que Achashverosh avait sorti les ustensiles du Beth Amikdash pour son festin, les avait utilisés, et les bénis Israël ont vu une chose pareille et n'ont pas réagi. C'est comme s'ils étaient indifférents au fait que les ustensiles du Beth Amikdash soient souillés par un tel festin. Top. Et en effet, là a dit Élie Hanavi à Mordechai, oui, il y a un décret au ciel. Il y a un décret divin d'anéantir tout un Israël. Et là dit la Gemara que Mordechai a pris peur une fois qu'il y a un décret au ciel, c'est-à-dire qu'au ciel, on a décidé réellement d'exterminer Israël. Alors là, Mordechai, il a réuni 22 000 enfants pour leur faire faire tshuva, leur faire étudier la Torah et des prières jour et nuit. Et évidemment, il a envoyé Esther, Shahash Berosh, comment on connaît l'histoire, etc. Bon, il a fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Nishtadlut, et dans le domaine de la Torah, de la Tshuva, de la Tfila, des mitzvot, et aussi dans le domaine stratégique, politique, pour aller parler à Shahash Berosh, etc., comment on connaît l'histoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque, bah, il faut bien comprendre que lorsqu'il y a un décret sur terre par des hommes politiques, par des rois et des ministres, eh bien, ce décret, il a une historique auparavant. C'est-à-dire que lorsque nous commettons certaines avérotes, certaines fautes, alors ces fautes, elles montent au ciel. Et des fois, ça peut provoquer qu'il y ait un décret sur nous de telle ou telle façon, telle ou telle manière, en telle condition, à telle date. Une fois que le décret a été lancé, donné au ciel, on est en train de chercher un cobaye sur terre. Ça peut être Paro, comme ça peut être Esav, comme ça peut être Haman, comme ça peut être Hitler, comme ça peut être Arafat, ou Saddam Hussein, ou n'importe quel homme politique qui, lui, va uniquement réaliser ce qui a été déjà décrété au ciel. Et lorsque nous, on arrive à faire une tshuva, à prier comme il faut, à faire tshuva notamment sur les fautes qui ont été commises, comme l'ont fait Mordechai et Esther en Israël, et bien là, automatiquement, le décret divin, il est annulé. Mais ce n'est pas le cas. Et aussi, des fois, dans certains cas, il n'y a aucun décret divin. Il y a uniquement une menace sur terre. Mais au ciel, il n'y a aucun décret. Bon, c'est aussi pour certaines raisons, pour nous faire peur. Des fois aussi pour une tshuva ou d'autres raisons. Top. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur terre est dirigé par le niveau spirituel de l'âme Israël. Notre niveau spirituel va engendrer un tel décret divin en notre faveur, ou alors, n'est-ce pas, de façon négative par rapport à nous. Donc, bah, entre parenthèses, c'est dans cette optique-là que le Rambam écrit qu'il y a une balance individuelle ainsi qu'il y a une balance universelle. Nous dit le Rambam, un homme doit considérer toujours qu'il se trouve sur une balance, qu'il a une balance personnelle, là, il a la moitié de mitzvot, la moitié de averot. S'il fait une mitzvah, eh bien, il fait basculer la balance du côté positif. Il fait une avera, eh bien, la balance, elle bascule du côté négatif. Ça, c'est vrai sur le plan individuel, mais dit le Rambam, c'est aussi vrai sur le plan universel. C'est-à-dire, il y a aussi une balance, n'est-ce pas, du monde entier. Dès que tu fais une bonne action, eh bien, tu peux faire basculer la balance universelle du côté positif. Tu fais une mauvaise action, c'est le contraire du côté négatif. Et c'est ce qui va, n'est-ce pas, engendrer, dans certains cas, des décrets, ou alors pas des mauvaises nouvelles, ou des maladies, etc. Mais tout dépend du niveau spirituel. On vient à notre sujet. Hachem a dit à Moshe, lorsque vous allez au rocher, il faut d'abord jurer devant le rocher. Si ça ne marche pas, il faut le frapper. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, ça dépend du niveau spirituel de l'âme Israël. C'est-à-dire que si les bénis Israël, ils sont à un niveau spirituel assez élevé, ils sont dans une élévation spirituelle, ils sont proches de Hachem, ils sont intéressés par la Torah et les mitzvot, c'est ce qui vraiment les intéresse, c'est leur aspiration réelle, profonde, ils veulent rentrer en Israël, faire la Torah et les mitzvot, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de frapper. Pas frapper, le rocher aussi, ça veut désigner, ça veut exprimer le fait que lorsqu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot, Hachem doit de temps en temps, n'est-ce pas, nous donner quelques menaces, quelques coups de bâton pour nous rappeler alors de nous faire tshuva. Alors que si on est à un niveau spirituel plus élevé, ce n'est pas la peine de frapper, ça suffit de parler, même de prononcer le nom d'Hachem. Prononcer le nom d'Hachem, ça veut exprimer une grande approche d'Hachem, un niveau spirituel très élevé. Alors Hachem a dit à Moshe, attention, ça dépend à quel niveau se trouve Am Israël. S'ils sont à un niveau très élevé, eh bien ça suffit de parler, ça suffit de jurer avec le nom d'Hachem, ce qui va provoquer un miracle, que le rocher donne ses eaux. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire que les bénis Israël ne sont pas à un niveau spirituel élevé, ils sont trop attachés au monde matériel, pas, il faut frapper le rocher, Il y a aussi une allusion, pas il faut frapper tout ce qui est matériel, tout ce qui est bas, tout ce qui est lié à tout ce qui est terrestre, pas comme le rocher, eh bien il faut le frapper, pas il faut l'anéantir, l'écraser, le diminuer. C'est-à-dire qu'il y a ici une tshuva à réaliser par rapport au monde matériel. Il faut le frapper pour trouver les eaux. Pas les eaux, c'est aussi une allusion pour la Torah. Enaim et la Torah. Il faut frapper ce rocher, il faut rabaisser tout ce qui est matériel pour mériter les eaux qui sont, elles, plus spirituelles. Alors, vous pouvez poser la question. Bon, c'est vrai que ça peut dépendre du niveau spirituel d'Am Israël. Mais Hachem savait, a priori, à quel niveau les Bnei Israël étaient. Est-ce qu'ils sont à un niveau élevé ou à un niveau bas? Alors Hachem aurait dû dire à Moshe, selon leur niveau, tu dois frapper le rocher ou alors parler au rocher. Pourquoi est-ce qu'Hachem lui dit, ça dépend de la réaction du rocher? Alors c'est très simple. Parce que le niveau spirituel d'un être humain ou d'un peuple entier, il peut être très changeant. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup faire tshuva ou tout d'un coup faire un vera. Même si on est à un niveau spirituel très élevé, on peut tout d'un coup faire une avéra qui va nous baisser de niveau spirituel. Ou le contraire. Même si on est loin de la Torah, loin d'Hachem, on peut tout d'un coup, en l'espace de quelques instants, faire une tshuva qui va nous amener à un niveau spirituel très élevé. Comme dit la Gemara, « Yesh kone olamo beshachat ». On peut tout d'un coup atterrir ce monde spirituel en un instant, en une heure. C'est-à-dire que Hachem savait quel était le niveau d'Am Israël, et a priori, en effet, il s'agit d'un niveau qui était relativement bas, puisqu'en effet, ils se sont plaints de façon même virulente et un peu agressive par rapport à Moshe, en demandant de l'eau, pas après 40 ans dans le désert, avec les miracles et les prophéties. Ils étaient encore en train de demander de réclamer de l'eau. C'est pourquoi aussi que Moshe, il s'est un peu énervé contre eux. Donc ils étaient à un niveau matériel, un niveau bas spirituellement, qui ne correspondait pas à tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Mais Hachem a dit à Moshe, il ne faut pas se décourager, parce qu'on ne sait jamais. Tout d'abord, ils peuvent tout d'un coup faire tshuva, et surtout, Hachem voulait dire à Moshe, surtout, lorsqu'ils vont t'entendre parler au rocher, lorsqu'ils vont t'entendre prononcer une tshuva jurée avec le nom d'Hachem, Shem Amfourash, devant un rocher, eh bien, ne serait-ce que par cette parole, par cette shvoua, par le fait de jurer, eh bien, ils vont eux aussi faire une shuva et vont s'élever spirituellement. C'est pourquoi Hachem a dit à Moshe, il faut essayer, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que leur niveau va tout d'un coup s'élever spirituellement. Donc, si ça ne marche pas...
Pour vouloir à toute une génération qui souffre de la soif comme ça, de se plaindre, malgré tous les miracles.
C'est-à-dire qu'Hachem, n'est-ce pas, en effet, ne nous demande jamais plus qu'on peut, plus que nos capacités. C'est-à-dire qu'il est sûr et certain qu'il y avait ici un peuple qui souffrait de la soif. C'est évident. Pas. Mais il y a aussi une façon de demander, une façon agressive devant Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, pas, qui les a délivrés de l'esclavage, d'une situation terrible, ça, Hachem, disons, l'a reproché au Bnei Israël. Maintenant, mis à part cela, tu vois, on ne voit pas tellement, il n'y avait pas ici un reproche de la part d'Hachem. Le reproche, pas le reproche, c'était surtout d'Hachem envers Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé en continu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Moshe Rabbeinu, lui, il était désespéré. Tout de suite, il a frappé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, aucune chance. Je les connais, pas, je vois ce qui s'est passé. Après 40 ans que je travaille avec eux jour et nuit, du matin au soir, pas, qu'est-ce qu'ils faisaient pour 40 ans? Il n'y avait rien dans le désert. Il n'y avait pas de banque, pas de magasin, pas de marché. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait? Le désert. Il y avait du sable, il y avait le ciel, des tentes et la manne. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient que étudier la Torah. Pendant 40 ans, du matin au soir, sans souci, sans tracas, même leurs habits, ils n'avaient qu'un vêtement qui était automatiquement lavé, lessivé, repassé par Anana Kavot, par la colonne de nuit tous les jours. Ils n'avaient besoin de rien. Ils n'avaient aucun aliment, ni à labourer la terre, ni à semer, n'est-ce pas, ni à moissonner, ni à acheter au magasin, rien du tout. La manne tombait directement du ciel. Bon, ils pouvaient se la cuisiner, n'est-ce pas, de façon bouillie ou cuite ou frire, ça oui, ils avaient une possibilité, mais ça prenait très peu de temps. Donc leur temps, ils le passaient qu'à la Torah. Alors Moshe, en quelque sorte, il attendait, espérait de ce peuple-là, après 40 années d'élévation, de travail spirituel, qu'ils soient à un niveau qui était déjà détaché du monde matériel. Même sans eau, on peut s'arranger comme lui, Moshe, s'arranger 40 jours au ciel. Même s'ils ne sont pas à ce niveau, alors il y a aussi une façon de demander de l'eau. Alors lorsqu'Hachem a dit à Moshe, il faut d'abord jurer, ça ne marche pas, il faut frapper. Moshe était, j'espère, il a dit, il n'y a aucune chance que ça marche. Et donc, ça ne marche pas, Moshe a dit, il a fait le compte, il a dit que c'est pire encore. Si je vais jurer, ça ne marche pas, c'est un chilul d'Hachem. C'est comme si je prononce en d'Hachem en vain. Ça ne marche pas. Alors mieux vaut frapper, mieux vaut, n'est-ce pas, tafasta moi, tafasta, mieux vaut, comment on dit pas, mieux vaut une dans la main que deux tu l'auras. C'est-à-dire que mieux vaut pas leur faire un miracle selon leur niveau matériel bas, plutôt que d'espérer, d'imaginer un niveau spirituel qui est avoué à l'échec à 99%. Et là, Hachem vient et reproche ça à Moshe Aaron. Elle dit non. Qu'est-ce qu'il a reproché? Quelle était l'erreur de Moshe Aaron? Alors, Hachem dit à Moshe Aaron qu'il ne faut jamais se désespérer. Ni de soi-même, ni de son camarade, ni de son élève, ni d'un peuple entier, parce qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire que ça vaut même la peine de risquer, ce qu'Hachem voulait dire à Moshe, parce que même Hachem, bon, Hachem savait tout, mais Hachem voulait dire à Moshe ce qu'il fallait tenter la chance. Hachem savait cela a priori. Il fallait tenter la chance de jurer, et ça ne marche pas, ensuite de frapper le rocher. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit de se désespérer de quelqu'un, de son niveau spirituel. Parce que tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer. Et spécifiquement par le fait, n'est-ce pas, le fait que tu mets une certaine confiance en la personne, des fois, ça peut lui donner plus d'enthousiasme, plus de courage, puisqu'il se rend compte, n'est-ce pas, qu'on lui fait confiance. C'est ce que dit Hachem à Moshe Aaron. Yann, lo emantem bi lagdisheni lenebne Israël. Emantem, emuna. Vous aurez dû avoir de la foi, de la confiance, et en moi, et en Israël. Alors, quel est le rapport? En effet, il faut se rappeler que nous sommes Tselem Elohim. Hachem a créé l'homme à son image. Kibetzelem Elohim Asayet Adam. Hachem a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc, en quelque sorte, nous avons des forces, des capacités qui proviennent d'Hachem. Tselem Elohim. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Hachem, si tu as la foi et la confiance en Hachem, automatiquement, tu as aussi confiance et foi au Bnei Israël. Parce que les Bnei Israël, ils ont aussi, n'est-ce pas, cette force illimitée de par leur Neshama qui vient de Tselem Elohim, de la Neshama que Hachem leur a inculquée en eux. Et ne pas croire en la capacité d'Am Israël, c'est comme Kaviachol, un manque de foi, de confiance en Hachem. On a posé la question, quel était le rapport entre la punition qu'Hachem a donnée à Moshe Aaron et la faute? Ils ont frappé à la place de parler. Hachem leur a dit, vous rentrez pas en Israël. Quel rapport? D'après le commentaire de Talmuziel, c'est extraordinaire. Parce qu'en effet, quelle était la faute? La faute, ce n'était pas l'action sèche d'avoir frappé. La faute, c'était lo emantem bi. C'est que lorsque tu es découragé de quelqu'un, si Moshe Aaron, ils n'ont pas de foi, de confiance en ce peuple, s'ils sont découragés, désespérés de leur capacité, de leur faculté spirituelle et morale, eh bien, vous ne pourrez pas les conduire en Israël. Pour être un manhig, pour diriger quelqu'un, pour le conduire, pour lui enseigner la Torah et les mitzvot, tu dois croire en ses capacités. Pas, si quelqu'un, si un maître, si un dirigeant considère que son élève, que ses élèves, que sa classe ne sont pas en mesure de comprendre, de réaliser ce qu'il demande, il ne pourra jamais lui enseigner la matière, la Torah comme il faut. Donc ce n'est pas une punition, c'est la conséquence automatique.
Pourquoi d'après en Israël, pendant 40 ans il les a conduits, non?
Pendant 40 ans, Moshe n'avait pas fait cette faute. Pendant 40 ans, Moshe avait confiance en Israël. Parce qu'en effet, d'abord Moshe, il était conscient que ce peuple-là ont vécu en esclavage. Il faut se rappeler, ceux qui sont sortis d'Égypte, ce sont des gens qui sont nés esclaves, n'est-ce pas? 210 ans en Égypte, donc c'est des gens qui étaient esclaves, leurs parents, leurs grands-parents étaient esclaves, ils n'ont connu que cela. Alors Moshe, au départ, il était très indulgent, tolérant envers eux, parce qu'il ne comprend pas que c'est un peuple qui a vécu, qui est né dans l'esclavage, alors il comprend qu'ils ont une façon différente de penser, ils ont, je veux dire, un niveau spirituel plus bas. Mais pendant 40 ans, Moshe travaille avec eux. À la fin de ces 40 ans, Moshe avait espéré, avait aspiré, était persuadé qu'il avait réussi à les élever spirituellement. Lorsqu'il se rend compte que ça n'a pas marché, selon son espérance, il y avait comme un petit échec dans ce domaine-là, alors Moshe, il exprime un certain découragement, désespoir par rapport à eux. Il exprime que, comme si ça n'a pas marché, ça a échoué. Alors Hachem lui dit, si tu ne crois pas en la faculté spirituelle de ton peuple, eh bien, tu ne peux pas les conduire, tu n'es pas le dirigeant qui convient pour les amener en Israël. Ce n'est pas qu'en Israël, c'est Israël, la Torah, les mitzvot, c'est continuer à réaliser la mission d'Am Israël. Tu as l'étape à venir, c'était en Israël, c'est vrai. Mais le but, ce n'était pas uniquement Eret Israël, c'était Eret Israël pour pouvoir accomplir la Torah, les mitzvot en Israël. Alors Moshe a fait son travail de façon extraordinaire jusqu'à présent, mais dorénavant, il faudra nommer un dirigeant, quelqu'un qui croit aux facultés de Sam Israël. Alors, ce qui est important...
Pourquoi les gens seraient comme des sages, en fait, sans être les dirigeants? Et pourquoi Aaron aussi, il a été puni, puisque c'est pas lui qui a frappé le rocher?
C'était, bon, Aaron, parce qu'il s'est tu, Shtika Keoda et Aaron étaient d'accord avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que apparemment, Moshe et Aaron se sont concertés auparavant. Ou alors même, sans se concerter, Aaron a constaté que Moshe ne pas vient ici frapper le rocher, lui a rien dit. Donc Aaron était aussi d'accord avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, les rentrer en tant que sage et pas en tant que dirigeant, parce que tu as très souvent, Hachem donne une mission à chacun. C'est-à-dire que bien souvent, la mission de chacun, on permet à telle personne de réaliser, de faire quelque chose selon sa mission. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, la raison qu'il avait de rentrer en Israël, c'était uniquement par rapport à Israël. Lui, en tant qu'individu, il y avait d'autres raisons pour lesquelles il ne fallait pas rentrer, pas qu'il rentre, parce que sinon, les Bnei Israël l'auraient fait ensuite comme une avodah zarah, chas v'shalom. Ça, en tant qu'individu seul. Mais par rapport à Israël, il devait le conduire, mais uniquement dans la mesure où il était un dirigeant comme il fallait pour eux. Dès qu'il est désespéré de leur faculté intellectuelle, il n'est plus capable de le faire entrer.
Pourquoi il n'y a pas de tikkun? Pourquoi il n'y a pas de réparation à ça? Maintenant, il s'est rendu compte de sa faute et à l'avenir, il va les diriger avec plus de confiance.
Bon, tiens, là, c'est toute une autre sikha, c'est pour expliquer aussi... Pour les explorateurs, les Meraglim, là aussi on dit que le Tikkun était quasiment impossible. C'est-à-dire que bon, on va dire en bref, c'est que lorsqu'on fait une Avera, le Tikkun est possible. Pour la Avera qu'on a commise. Mais lorsque quelqu'un, il manque de confiance, de foi, d'émouna en ses capacités, le Tikkun est encore plus difficile. Parce qu'on peut faire Tshuva uniquement lorsque tu es conscient que tu peux faire la mitzvah et tu as fait la avera. Mais lorsque quelqu'un il se sent incapable de faire la mitzvah, c'est plus grave encore. C'est pourquoi aussi Hachem a aussi été très sévère pour les miracles des explorateurs lorsqu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Parce qu'ils se sentaient incapables d'affronter ce peuple. Lorsque tu te sens incapable, le tikkun est encore plus difficile. Attends, mais c'est encore un autre sujet.
Les accuser de se sentir incapable parce que c'est une sensation, ils se sentaient comme ça.
À leur niveau, Hachem connaît les forces et les capacités de chacun. À leur niveau spirituel très élevé, ils étaient chefs des tribus, Hachem leur a reproché. Si Hachem leur reproche, donc apparemment que oui, on peut reprocher ça. Bon, c'est un travail réalisé, c'est vrai. La leçon de morale à tirer de cela pour nous, elle est très importante. Ce qu'on nous demande, c'est de toujours nous sentir capables. C'est-à-dire que, et par rapport à nous, et par rapport à nos camarades, à notre famille, à nos élèves et tout ce qui nous entoure. Pas tout d'abord. Comme Hachem l'a insinué, l'a fait remarquer à Moshe Rabbeinu par allusion, c'est que bien que les Bnei Israël, au départ, ils étaient à un niveau spirituel bas, cependant, le fait que Moshe se mette à prononcer le nom d'Hachem devant eux, eh bien, ça allait montrer, démontrer, désigner un certain espoir, une certaine foi, une certaine confiance par rapport à eux. Et donc, cela les aurait élevés à un niveau spirituel très élevé. Pas concrètement parlant, si par exemple, on veut éduquer un enfant. Alors, lorsque un parent est en train de montrer de façon directe ou de façon indirecte que l'enfant est incapable de réaliser telle ou telle œuvre, telle ou telle besogne. Alors, l'enfant, lui aussi, se considérera vraiment incapable de la réaliser. Même si auparavant, il se sentait capable, eh bien, les parents lui ont enlevé cette confiance en soi. Au contraire, lorsque un maître ou un parent montre à l'enfant qu'il est capable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'exiger, parce que l'exigence, elle est aussi peut-être négative envers l'enfant et l'élève. Il s'agit de montrer, même de façon indirecte et délicate, qu'on a confiance en ses capacités. Et on le sent capable de réaliser telle ou telle besogne, de passer tel ou tel examen. Le fait que les parents ou les maîtres montrent une confiance envers l'enfant ou l'élève pour réaliser telle chose, ça lui donne plus d'assurance. C'est-à-dire que même s'il se sentait plus ou moins incapable, eh bien ça va lui donner un coup de pouce pour être encore plus sûr de lui. Et deuxièmement, ce qu'on apprend ici, c'est que lorsqu'on considère un élève ou un enfant incapable, eh bien c'est une déficience dans notre faculté d'éduquer, d'enseigner. C'est ce que Hachem a reproché à Moshe Rabbeinu. Bien sûr, on veut dire, bon, Moshe Rabbeinu, on ne connaît pas ce niveau spirituel, mais on parle, n'est-ce pas, la Torah nous enseigne tout cela pour ce qu'on doit apprendre, nous, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la faculté essentielle qu'on demande à un parent ou à un maître, c'est de considérer pas ses élèves et ses enfants capables de réaliser telle ou telle chose. Troisième enseignement, c'est pareil aussi pour nous. C'est-à-dire que soi-même, plus on se sent capable de réaliser quelque chose, eh bien plus on pourra le réaliser. On dit que psychologiquement, lorsque tu te sens capable, même des fois lorsque tu le prononces, eh bien tu envoies comme un message à ton cerveau et à ton cœur de réaliser telle ou telle chose, telle ou telle besogne. Et lorsque tu te sens incapable, eh bien au contraire tu envoies un message qui va te rendre incapable, même par rapport à la mémoire. Si tu as oublié quelque chose et tu te dis, oh, j'ai oublié, j'oublie tout le temps, alors tu envoies un message à ton cerveau de l'oublier encore plus. Mais lorsque, au contraire, tu te dis, attends, il faut que je le rappelle, il faut que je m'en rappelle, là tu envoies un message à ton cerveau de te rappeler encore plus. Tu es en train de puiser du fond de ton cerveau eh bien, des connaissances qui sont anesthésiées, qui sont dissimulées jusqu'à présent. Plus on se donne confiance, plus on peut être sûr, on peut réaliser ce que réellement on a, ce qui est caché, dissimulé en nous. Entre parenthèses, pour terminer, c'est aussi écrit par allusion dans Parashat Shlach Lecha. C'est écrit « Kichazaku mimenu ». Les explorateurs, en entrant en Israël, lorsqu'ils ont fait un compte-rendu ensuite à Moshe Rabbeinu et à Bnei Israël, ils ont dit « qu'on ne pourra pas vaincre ces peuples, ces ennemis, qui chazaku mimenu. Alors, mimenu, c'est-à-dire qu'il y a ici deux traductions. On peut expliquer parce que ce peuple-là est plus fort mimenu que nous, ou alors mimenu que lui. C'est-à-dire, ce peuple est plus fort que nous, ou alors plus fort que lui, ça veut dire de Hachem. Et nos sages viennent expliquer dans le Midrash que les explorateurs, ils ont pensé à Hachem. Lorsqu'ils ont dit, ils ont dit que ce peuple-là est plus fort que Hachem. Et là, on pose la question, d'abord, comment ils ont dit une chose pareille? Deuxièmement, pourquoi nos sages qui avaient la possibilité d'expliquer ce texte-là selon l'autre commentaire, Mimeno, c'est plus fort que nous, pourquoi est-ce qu'ils ont extrapolé et expliqué que ce peuple-là est plus fort que Hachem? La réponse est vraiment percutante et puissante. Un des commentaires dit la chose suivante. Que Bémet, les Miraglim, ils ont dit, Chazakoumimenu, que ce peuple-là est plus fort que nous. Mais nos sages, c'est eux qui ont traduit cela. Ils ont dit que lorsque tu te considères incapable, alors que Hachem, qui connaît tes capacités, tes forces, il sait que tu es réellement capable. Lorsque tu te dis « je suis incapable », c'est comme si tu renies la capacité d'Hachem. Parce qu'en effet, Hachem t'a donné des capacités, des facultés. À toi de les exploiter. Hachem t'a donné une âme, une neshama qui est Tselem Elokim, qui provient directement d'Hachem. Lorsque tu refuses de croire en tes capacités et tes facultés, c'est comme si tu refuses de croire aux capacités d'Hachem. Donc les Meraglim qui ont dit Chazakou Mimenu, ils sont plus forts que nous, c'est comme s'ils disaient plus fort qu'Hachem. Au fin fond de leur pensée, c'est-à-dire que la déficience, c'est un manque de Emouna en tes capacités, un manque de foi, de confiance en tes facultés, évidemment. Ce n'est pas des facultés qui sont imaginaires, mais qui sont réelles, et que Hachem connaît, que nous avons réellement. Dans ce cas-là, c'est comme si tu refuses, n'est-ce pas, de croire à ce que Hachem t'a donné, et donc à la capacité d'Hachem. A l'inverse, pas plus on se sent capable, plus on essaye d'exploiter les facultés qu'Hachem a données, plus on va réussir.